Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui vous rappellera ou qui vous apprendra, bienvenue, welcome, welcome, que 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, plus ou moins pertinentes, l'illustration sonore ou musicale, les petites images qui bougent depuis quelque part vers la fin du 19e siècle, ou même avant selon certains historiens. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien, nous allons rapidement évoquer la carrière d'une actrice qui, lors de la 77e Mostra de Venise, a reçu un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière. Un Lion d'or à la fois tout à fait mérité, puisque Catherine Matilda Swinton, c'est son nom de naissance, alias Tilda Swinton, a su tisser tout au long des années 80 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, une carrière éclectique, profitant de ce qu'on pourrait appeler une sorte de physique un peu hors norme, tout à fait étrange, une grande femme maigre, ni l'un ni l'autre n'étant évidemment péjoratif, qui a su jouer de ce physique à tous les sens du terme pour s'imposer dans des rôles de plus en plus importants. Il est vrai que Tilda Swinton, on va l'appeler comme ça maintenant, avait de qui tenir, puisque sa maman est australienne et son papa est écossais, Sir John Swinton of Kemogame, et d'une famille, comme son nom l'indique, tout à fait vénérable, puisque la lignée des Swinton est établie jusqu'au Xe siècle, bien avant Braveheart et Mel Gibson, c'est vous dire. Mais bon, de cela, évidemment, j'en plaisante, on pourra aussi plaisanter du fait que Tilda Swinton a étudié à la West Ace Girls School, je vous laisse traduire, aux côtés d'une certaine Diana Spencer, dont le nom vous dira peut-être quelque chose, puisque sous le nom de Princesse des Cœurs, eh bien, elle vient lamentablement s'écraser contre un pilier d'un tunnel quelque part, auprès de la Tour Eiffel. Personne ne l'a oublié, quel événement d'une grande tristesse. Bref, tout ça pour dire que Tilda Swinton a reçu une éducation relativement confortable avant de mal tourner, évidemment, puisque elle commence par faire du cinéma. Alors mal tourner, évidemment, un jeu de mots. En 1986, elle tourne son premier film avec celui qui va devenir un complice, puisqu'elle tournera un grand nombre de films avec lui. En l'espèce, le dénommé Derek Jarman, qu'il est très difficile de qualifier, mais à mi-chemin entre punk, déjanté et fou, c'est certainement les qualificatifs qui conviennent le mieux tout à la fois à l'œuvre et à la personnalité de Derek Jarman, un homme assez étrange. Et en 1986, eh bien, il s'essaie à rien moins qu'une biographie du Caravage, le peintre scandaleux du Quattrocento, et un essai assez étonnant, duquel, hélas, je n'ai pas de musique à vous proposer, qui sera suivi pour Tilda Swinton et Derek Jarman de bien d'autres collaborations. Je les cite, puisque là encore, je n'aurai pas d'extraits musicaux à vous proposer. On la verra dans un sketch de Derek Jarman, d'un film qui s'appelle « Depuis le jour ». On la verra aussi dans « The Last of England », on la verra dans « The Garden », on la verra dans « Wittgenstein », consacré au célèbre philosophe. Bref, on la verra pratiquement dans tous les films d'Derek Jarman, mais ce n'est évidemment pas ça qui va lui assurer la célébrité qui lui a valu son prix à Venise. Et on va écouter un extrait de la bande originale du premier film dans lequel Tilda Swinton a vraiment été remarquée. Il est vrai qu'elle y jouait le rôle principal. Ce film, il date de 1992, donc quelques années après ses débuts aux côtés de Derek Jarman. Il s'appelle Orlando, il est réalisé par Sally Potter, et je vous en dirai quelques mots, mais après en avoir écouté un extrait musical. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que la musique est de David Motion, le bien nommé Motion, et de Sally Potter, le tout dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, un extrait de la bande originale d'Orlando, un film de Sally Potter tourné en 1992. Alors les plus savants et savantes d'entre vous auront reconnu de la musique élisabéthaine de l'Angleterre, pardonnez-moi. Élisabéthaine, puisque le film, comme le roman de Virginia Woolf duquel il est adapté, raconte l'histoire d'Orlando, un personnage tout à fait étrange, hors norme, un peu comme Tilda Swinton, qu'il suit de l'Angleterre élisabéthaine jusqu'aux années 2000, puisqu'en fait, le personnage ne vieillit pas, ou alors très peu, et donc il traverse les siècles. Il traverse les siècles en mêlant l'histoire, la grande histoire, et l'histoire intime, et notamment les histoires d'amour. Et dans notre série Hors Normes, eh bien, le personnage d'homme devient femme, ce qui là encore offre des perspectives poétiques tout à fait saisissantes, et qui permet à Sally Potter très habilement de transposer l'essai littéraire de Virginia Woolf. C'est un truisme, il n'y a certainement rien de plus difficile que d'adapter au cinéma la prose si particulière, si intime de Virginia Woolf. Ma foi, le film est réussi parfaitement. Et comme le propos en fait du livre, eh bien, on ne s'arrête pas à 1928, ce qui était le cas du livre, mais on s'arrête à 1992, l'année de tournage du film. Le film ménage aussi une sorte de commentaire ironique sur lui-même avec des apartés où on voit Tilda Swinton parler de son rôle en tant que comédienne sans que ce soit vraiment gênant. Et on arrive à suivre l'histoire tout à fait fascinante de cet homme, de cette femme qui vit sur plusieurs siècles. Bref, une adaptation tout à fait réussie et l'occasion pour Tilda Swinton eh bien, de connaître un rôle très important qui lui ouvre de nouvelles portes, puisque en passant quelques années, on va la retrouver à Hollywood, tout simplement, en 2000, dans un film qui met en vedette Penélope Cruz, oui, mais ça s'écrit pas pareil, et Cameron Diaz, c'est pour ça que j'hésitais, il y a même Kurt Russell, bref, un quatuor de choc de stars américaines pour un film qui, dans une manière bien américaine, est un remake d'un film tourné en 1997 par Alejandro Amenábar, qui s'appelle Ouvre les yeux. Alejandro Amenábar, il est surtout connu pour avoir tourné Les Autres, qui donnait à Nicole Kidman, une des ex de Tom Cruise, un rôle absolument fantastique dans un film qui ne l'était pas moins. Et donc, en 2001, j'y arrive, eh bien, Tom Cruise, sous la réalisation peu inspirée, il faut bien le dire, de Cameron Crowe, décide de tourner un remake d'Ouvre les yeux qui s'appelle Vanilla Sky, une histoire tout à fait étrange d'un jeune éditeur qui hésite entre la réalité et l'imaginaire. Alors, je ne vais pas être trop désagréable, mais ce qui était tout à fait subtil dans le film d'Alejandro Amenábar devient, comment dire, un peu moins subtil dans le film étant en vedette Tom Cruise. Ma foi, l'homme a eu le mérite d'essayer, ça nous change de Mission Impossible 12 et de Top Gun 14, au moins un vrai rôle de personnage mâle dans une histoire qui met en vedette les femmes, ça aussi c'est bienvenu. Tilda Swinton, pardonnez-moi, elle tient un petit rôle, mais en tout cas l'occasion d'une carrière américaine. Et on écoute un extrait de cette bande originale. La musique, elle est signée de Nancy Wilson, encore une femme. C'est bien quand il y a des femmes dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, un extrait tout à fait apaisé de la bande originale de Vanilla Sky, un film qui mettait en vedette Tom Cruise avec dans un rôle moindre Tilda Swinton, notre héroïne du jour ou des musiques. Je l'ai déjà oublié, la pauvre de Madame Wilson, qui n'a pas, percé vraiment, en tout cas pas de moi. J'ai honte, mais je vais le retrouver avant d'avoir terminé cette émission. Nancy, elle s'appelle Nancy Wilson, avec mes excuses. En tout cas, c'est l'occasion pour Tilda Swinton de débuter une carrière américaine qui va connaître un boost tout à fait remarquable en 2005, puisqu'en 2005, Tilda Swinton sera la sorcière blanche dans une adaptation du monde de Narnia, une trilogie de livres écrits par C.S. Lewis. Alors, le monde de Narnia, ce n'est pas très, très connu chez nous. Bon, ça l'a été grâce au film de Disney. Par contre, ce n'était pas un livre qu'on avait dans la bibliothèque rose ou même verte. Non, ça aurait plutôt été verte dans ce cas-là. Mais aux États-Unis, c'est un roman, une série de romans, donc tout à fait remarquable et très, très connu. Et donc, une sorte de saga un peu gothique où on voit quatre enfants qui vivent dans la Seconde Guerre mondiale à Londres, si je me souviens bien, et qui rentrent dans une armoire magique où, évidemment, ils arrivent dans un nouveau monde. Le monde de Narnia, vous l'avez compris, je n'ai pas besoin de vous dire plus. Cet univers, contrairement à d'autres, est très, très marqué par une apologie même pas masquée du christianisme, ce qui pourra plaire ou pas selon les cas. Mais pour Disney, évidemment, ça plaisait. Et donc, le premier opus s'appelle Le monde de Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Donc, la sorcière blanche, vous voyez, l'armoire magique aussi, le lion, je le laisserai se présenter lui-même. Et grâce à cette trilogie, puisque donc après ce premier épisode, on eut Le prince Caspian et L'Odyssée du passeur d'aurore, grâce à ces trois films, Tilda Swinton connut enfin une célébrité commerciale, ma foi, il en faut aussi. On va évidemment écouter un extrait de la bande originale de ce film. Elle est signée de Harry Gregson Williams. Le monde de Narnia, certes, mais dans 24 notes secondes. Thank you. un extrait de la bande originale du Monde de Narnia 1, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, un film d'Andrew Adamson, j'ai oublié de le préciser, pardon. Avant d'écouter cet extrait musical, une partition signée de Harry Gregson-Williams, et donc l'occasion pour Tilda Swinton, non pas de trouver le rôle de sa vie, heureusement, elle en a eu bien d'autres, mais en tout cas de trouver le rôle de la Sorcière Blanche qui va lui assurer une célébrité durable, puisqu'elle le tournera dans les 3 films de cette saga. Tilda Swinton qui connaîtra une autre forme de consécration en 2008, puisque le 24 février 2008, à l'occasion de la cérémonie des Oscars, eh bien, elle obtient l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour un film intitulé Michael Clayton, où on la voyait opposée à un film de Tony Gilroy, où on la voyait opposée à George Clooney dans ses histoires juridiques d'avocats qui passionnent les Américains un peu moins chez nous, il faut bien le reconnaître. On la verra aussi dans des films très très différents, et c'est ça aussi qui fait le prix d'une actrice, c'est sa capacité à aller dans des univers aussi commerciaux, il faut bien le dire, que le Monde de Narnia, mais aussi ailleurs. Notons pour la petite anecdote que Tilda Swinton a refusé un rôle dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est une des rares actrices à refuser de jouer dans la saga Harry Potter, mais ma foi, elle préférait tourner par exemple L'Homme de l'Ombre de Bellatar, tourné en 2007. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui est Bellatar, un réalisateur hongrois qui fait des films de 3-4 heures, c'est le minimum, en noir et blanc bien sûr, avec des plans qui durent entre 10-15 minutes, c'est le minimum aussi. Bref, un univers tout à fait différent de celui de Harry Potter, mais dans lequel Tilda Swinton se trouve tout à fait à l'aise. On la voit aussi, je picore dans sa filmographie, des films que j'aime bien, tout simplement. On la verra aussi en 2008 dans L'étrange histoire de Benjamin Button, aux côtés de Brad Pitt et de Cate Blanchett. On la verra aussi dans le film Amore de Luca Guadagnino, où elle est tout à fait remarquable. Luca Guadagnino, qui ensuite connaîtra la célébrité avec Call Me By Your Name. Et on la verra aussi dans un film tout à fait terrifiant que je ne vous recommande pas, mais du coup je vous le recommande, un film de 2011 qui s'appelle We Need to Talk About Kevin. Je vous laisse découvrir qui est Kevin, ma foi. Il y a des films desquels on ne ressort pas indemne, et du coup on va passer à tout à fait autre chose, un univers beaucoup plus apaisant, beaucoup plus drôle, beaucoup plus poétique, celui de Wes Anderson, en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 2012. Ça s'appelle Moonrise Kingdom. Je vous en dirai plus après avoir écouté un extrait de cette bande originale dans 24 notes secondes. Thank you. Oh, comme c'est beau. Un extrait de la bande originale de Moonrise Kingdom, un film de Wes Anderson, le septième film de Wes Anderson. Une musique d'Alexandre Desplat, peut-être ses amateurs l'auront reconnu. Alors j'aimerais vous en dire tant sur Moonrise Kingdom, mais je vous en dirai peu parce que je veux laisser un peu de place à la musique pour conclure cette émission. Un film d'enfance où on retrouvait des adultes comme Edward Norton, Bill Murray, dont c'était la énième collaboration avec Wes Anderson, Frances McDormand, Tilda Swinton, bien sûr, Harvey Keitel, et il y avait même Bruce Willis. Et à la bande originale, il y avait Alexandre Desplat, mais il y avait aussi Benjamin Britten, un compositeur britannique qu'on adore. Et il y avait même aussi, figurez-vous, Françoise Hardy, puisque la chanson préférée de la jeune héroïne du film, c'était « Le temps de l'amour ». Alors non, je vais vous épargner « Le temps de l'amour ». On va plutôt dire qu'après cette petite merveille de laquelle il faudrait dire beaucoup plus, eh bien, Tilda Swinton a poursuivi une carrière qui n'a jamais été aussi brillante, il faut bien le dire, puisqu'on l'a vu dans des films très différents. Deux films de Bong Joon-ho, Le Transpersonnage en 2013 et puis Okja en 2017. On l'a vu aussi dans Only Lover Left Alive de Jim Jarmusch, une petite merveille inconnue, je vous le recommande. On l'a vu dans Une grosse machine, Le Docteur Strange de Scott Derrickson en 2016. Et on l'a revu aussi dans d'autres films de Wes Anderson, et c'est sur ça qu'on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale de The Grand Budapest Hotel, un film de 2014. Alors si je voulais écouter un extrait un peu plus long et après je me tais, eh bien c'est tout simplement parce que la musique de ce film a été signée d'Alexandre Desplat et qu'à l'occasion de ce film, Alexandre a reçu son premier Oscar, hein, premier de deux, peut-être de 12 bientôt. Alexandre, on t'aime et on écoute un extrait de ta bande originale, The Grand Budapest Hotel, dans 24 notes secondes. Pardon Alexandre, voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui, au revoir, à bientôt, salut, bye bye. Thank you.